Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de la rentrée, l'émission de cinéphile. Nous parlons voilà de divers films que peut-être vous n'avez pas forcément entendu parler, qui méritent en tout cas un petit coup de projecteur et les films que l'association cinéphile passe actuellement. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison après une pause estivale. Voilà, on a un très lourd programme qui nous attend ces prochaines semaines, ces prochains mois et cette année qui va suivre. Donc on commence tout de suite en fait par deux films qui sont présents déjà depuis la rentrée, depuis le 31 août pour l'un et depuis le 7 septembre pour l'autre. On va parler du Vrai du Faux et de Tropique. Alors pas de comparse avec moi pour en parler, mais en tout cas quelque chose qui va vous plaire, puisqu'on a pu interviewer les deux réalisateurs des deux films en question, c'est-à-dire Le Vrai du Faux, réalisé par Armel Ostiou, et Tropique, réalisé par Édouard Salier. Voilà, deux films très différents, mais qui en même temps empruntent tous les deux un peu au code du genre, vous verrez. On va commencer en fait par parler du Vrai du Faux de Armel Ostiou. Alors Le Vrai du Faux, c'est un film assez singulier. Vous allez le voir dans Armel Ostiou va répondre d'ailleurs tout de suite à ça, mais le film parle d'un postulat qui est vrai, c'est-à-dire que Armel Ostiou a découvert qu'il avait une personne qui se faisait passer pour lui et qui faisait passer des castings. Qu'on va tout de suite écouter la réponse d'Armel Ostiou qui nous explique comment il a transformé cette anecdote personnelle en film.
Oui, c'est vrai que c'est un peu un film qui est un peu venu vers moi dans la mesure où comme je le raconte au début du film, l'histoire débute un jour où un ami me dit, voilà, j'ai découvert que tu as un deuxième profil sur Facebook, c'est le tien ou pas, je ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait me dire, donc je vérifie moi-même. Et je découvre effectivement qu'il y a un profil qui est le mien, et puis un autre profil avec des photos de moi, mon nom, un CV, mais que je n'ai pas créé, donc ça m'intrigue. Je clique et je découvre qu'effectivement, donc quelqu'un a usurpé mon identité et que cette personne en plus a plein d'amis mais que des femmes et donc je regarde qui sont-elles et je découvre qu'elles habitent toutes à Kinshasa et que sur cette page il y a des messages qui sont publiés de temps en temps et qui annoncent la tenue de casting pour deux films pour des films que je serais censé tourner au Congo. Donc évidemment, je me dis que il y a quelque chose d'étrange qui se cache derrière tout ça. Je contacte Facebook pour essayer de leur signaler le profil et puis de voir si ce profil peut être clôturé. J'envoie un message et auquel on me répond 15 jours plus tard. Merci pour votre quête. Nous avons analysé votre signalement, mais nous tenons à vous dire que d'après nous, il ne s'agit pas d'un faux profil et que ce compte ne sera pas clôturé. Mais que vous pouvez, si vous le souhaitez, ne plus suivre cette personne ou ne plus être ami avec elle. Donc avec moi-même, enfin. Non. Et alors en fait, moi, j'avais pas eu l'idée de faire un film du tout, enfin, sur cette histoire qui, voilà, me semblait quand même anecdotique initialement. Mais c'est au moment où je reçois la réponse de Facebook où je me dis, mais en fait, c'est qui me semblait complètement absurde, puisqu'en plus, ça laissait entendre que si l'autre moi n'était pas le faux, et ben implicitement, ça laissait, moi, j'étais potentiellement le faux moi-même. Que je me suis dit, bon, on dirait effectivement presque le début d'un scénario, d'un film mi-absurde, mi-paranoïaque, mi-kafkaïen. Et je me suis dit, il y aurait peut-être un fil à tirer sur ce projet-là. Après, moi, je ne connaissais pas le Congo, je ne connaissais pas Kinshasa. Donc ça a mis un peu de temps avant que tout ça se mette en place. Mais finalement, je suis parti dans un voyage tournage, repérage, parce que j'avais pas non plus la certitude qu'il y aurait finalement un film au bout du compte, mais en me disant qu'il y avait peut-être quelque chose qui me semblait cinématographique, dans la mesure où d'emblée il y avait des ingrédients, la question du double, la question du casting, la question des rapports nord-sud, des rapports hommes-femmes, enfin il y avait beaucoup d'ingrédients qui pouvaient me donner l'impression qu'il y avait peut-être un film à faire là-bas, mais j'en étais pas du tout certain avant de mettre un pied là-bas. Et puis, bon, après, c'est ce que le film raconte, quoi. Une fois arrivé sur place, il y a tellement de successions d'événements les uns après les autres que quand je suis rentré en France, je me suis dit, bon, il y a même peut-être plus qu'un seul film à faire.
Si vous avez vu le film, vous verrez assez vite que le titre porte assez bien son nom, puisqu'on, des fois, on a un peu des doutes sur ce que l'on voit, quel est le vrai, quel est le faux parmi ce que nous montre Armel Ostiou. Et donc, justement, ma question était là-dessus, de quelle façon il a mêlé réalité et fiction.
cœur du film, enfin le point de départ et le cœur du film est complètement documentaire, puisque tout ce qui se passe, c'est effectivement des éléments qui me sont arrivés. Après, voilà, il y a des choses effectivement que j'ai dû peut-être mettre en scène, mais toujours en fait inspiré ou en rejoint des choses qui m'étaient vraiment arrivées. Donc voilà, la fiction, effectivement, je vais attendre à dire que la fiction, elle est effectivement au cœur du film, mais parce que finalement, ce que moi je découvre, les personnages que je rencontre et cette succession d'événements, effectivement, semblent s'inscrire dans un registre fictionnel. Après, c'est vrai que les gens qui connaissent aussi Kinshasa, qui connaissent le Congo, et qui connaissent effectivement la potentialité des habitants de cette ville, d'être eux-mêmes d'excellents acteurs et d'avoir cette espèce de sens de l'imagination et de voilà que raconte le film, comprennent effectivement à quel point les choses sont complètement inscrites dans une forme de réalité, mais c'est vrai que c'est une réalité qui n'est pas forcément une réalité qui est régie par les codes les plus cartésiens, effectivement une réalité dans laquelle il peut y avoir des incursions de magie ou d'approches qui sont effectivement différentes de celles auxquelles on peut être habitué ici. Ce que le montage a permis, c'est aussi effectivement de synthétiser le récit. Pour être très honnête, il y a eu deux tournages. Donc moi, j'ai découvert Chromix à la fin du premier tournage. Et après, je suis rentré en France, j'ai commencé à monter la matière. Je me suis dit, bon, il y a effectivement matière à faire un film. Mais effectivement, j'avais envie de connaître davantage ce personnage. Et donc, pendant cette espèce d'absence, moi, je l'ai un peu apprivoisé. Et quand je suis revenu avec voilà, l'idée de passer plus de temps avec lui. Mais voilà, dans le film, les choses sont un peu condensées. Ouais, de la même façon que je raconte pas non plus dans le film que ça a pris du temps en fait entre le moment où je découvre le profil et mon départ à Kinshasa, il y a des années qui se sont écoulées dans le film, tout ça s'est synthétisé. Voilà, parce que c'est vrai que j'avais aussi un peu envie de jouer avec des codes du thriller, les codes de la fiction aussi. Enfin, moi, de toute façon, avant de faire ce film, j'ai fait des films plus de fiction aussi. J'avais fait un autre film documentaire, mais moi, ce qui m'intéresse plus que d'ailleurs la frontière entre les genres, c'est plutôt leur imbrication et de voir effectivement ce que cette imbrication peut créer comme étincelle et comme proposition de cinéma. Donc c'est vrai que ça m'intéressait de jouer un peu avec les formes. Et j'assume ça. Enfin, le film assume ça dans la mesure où il y a un côté un peu thriller, mais un thriller un peu métaphysique aussi, où finalement je ne veux pas trop dévoiler, mais finalement le point de vue finit par changer aussi au cours du film, et le narrateur final n'est plus celui qui était le narrateur initial.
Et Armel Le Sou nous explique voilà, que énormément de choses en fait se sont faites au montage. Ça se remarque assez vite, il y a beaucoup de décisions qu'il a prises par rapport à ça, de mêler justement cette frontière entre la fiction et la réalité, c'est beaucoup au montage que ça s'est fait, et il nous l'explique tout de suite comment il l'a fait.
Le premier tournage où moi je suis arrivé au Congo sans connaître cette ville, j'ai débarqué en pleine saison des pluies, dans un lieu que j'ignorais complètement, et c'est vrai que ça a été un peu une espèce de tourbillon, donc moi j'ai essayé de suivre un peu mon cap, mais le film raconte aussi avec plein de choses trappes, des cul-de-sac, enfin, un trajet qui était un peu jalonné par des... par certaines péripéties, mais bon, que j'ai essayé d'intégrer dans le récit. Et au montage, ensuite, avec la collaboration de Mario Valero, le monteur avec qui j'ai travaillé, il y a beaucoup de choses, effectivement, qu'on a essayé de retravailler, de rendre plus romanesque. Et la particularité, ça a été, effectivement, de pouvoir retourner là-bas, après avoir déjà, en fait, suite au premier tournage, créer trouver la structure du film. Donc en fait, quand je suis retourné là-bas, je savais en gros quelle était la structure, je savais où le film allait, mais je savais aussi un peu les pièces manquantes du puzzle, et je suis retourné voilà avec dans une configuration qui était finalement très différente parce que je connaissais davantage le pays, je savais déjà un peu quels étaient les personnages du film, et je savais notamment ceux avec qui je voulais passer plus de temps, notamment Chromix, mais également Sarah, qui est une des résidentes de La Vie est Belle, la résidence où moi j'habitais. Et au dérochage, j'ai réalisé en fait que dès qu'elle intervenait, elle avait une espèce de capacité avec un sens de la synthèse et de l'humour et une grande intelligence de faire des espèces de points dans le récit. Donc voilà, je savais un peu ce vers quoi je voulais aller. Et effectivement, en termes de structure, cette idée comme ça un peu dostoïevskienne où finalement le point de vue s'inverse et où où mon double finit vraiment par prendre ma place de réalisateur. C'était des choses effectivement qui s'étaient un peu trouvées au montage et qu'on a ensuite prolongé lors du deuxième tournage.
Voilà, je lui demandais aussi un petit peu de nous détailler certaines séquences que je trouvais assez fortes, notamment un casting qu'il a fait. Et là, justement, il raconte comment voilà, les conditions d'un tournage de documentaire donnent à des moments qu'on n'avait pas du tout anticipés et prévus. Et il le raconte.
Alors il y a deux castings, parce qu'il y a celui que moi je mène, qui arrive dans une première partie où je demande justement à ces comédiennes de raconter une histoire vraie, une histoire fausse. Et alors là, voilà, situation typiquement documentaire, bah, je m'attendais à des anecdotes, des choses un peu légères. En fait, je me retrouve surtout avec des témoignages en fait, très poignants, très, très forts de femmes de Kinshasa congolaises qui me racontaient des choses en fait qui... On lien avec la question des rapports hommes-femmes et finalement l'exercice du casting comme un lieu de pouvoir aussi, comme un lieu d'abus. Enfin, donc ça, c'est vrai qu'au moment du tournage, je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Et voilà, au montage, on s'est dit, mais effectivement, il faut absolument que ce soit dans le film parce que ça raconte aussi quelque chose de plus grave aussi sur cette histoire. Le deuxième casting, effectivement, il y a notamment un contre-champ sur moi là où qui est un peu mise en scène parce que ça me semblait apporter une dimension plus humoristique dans le film, mais en tout cas effectivement la grande question du montage au-delà de cette question du casting, c'était en permanence cette espèce de grand écart entre la comédie et le drame. C'est vrai que autant le point de départ du film est raconté de façon un peu légère, un faux profil, au Congo, enfin je pars un peu mener une enquête, il y a une dimension qui peut sembler un peu humoristique, et en fait, plus le film avance, plus ça me semblait intéressant aussi, plus en fait, finalement l'enquête avance, et plus je découvre aussi les enjeux profonds qui sont derrière cette histoire-là, et puis tout simplement la réalité aussi de voilà, enfin, j'avais pas envie de faire un film qui soit uniquement raconté sous un aspect tragique, parce qu'il y a aussi, voilà, le film est rempli de rencontres, de moments de vie, de proposition artistique, mais il y avait, voilà, cette idée comme ça, qu'il y avait une espèce de va-et-vient à trouver, et ça a été un des grands enjeux en termes de montage, justement, en termes de trouver, de faire en sorte que le ton du film gravite aussi entre ces deux pôles.
Et pour terminer, je lui ai un peu demandé ce qu'il avait justement retenu politiquement de la condition de Kinshasa et du pays en règle générale, à travers ses recherches. Qu'est-ce qu'il lui en a déduit de l'état du pays actuel ?
Ce qui essaye d'être relativisé dans le film aussi, c'est qu'en fait, en résumé, la situation à Kinshasa, la vie quotidienne, elle est tellement difficile qu'en fait, très vite, moi, je comprends que pour les gens qui sont là-bas, beaucoup de gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, en fait, tous les moyens sont bons pour essayer de s'en sortir, tout simplement, quoi. Et c'est vrai que ces histoires d'arnaques sur Internet, très vite, en fait, dès mon arrivée, moi, donc j'arrive dans cette résidence d'artistes, La Vie est Belle, où je suis entouré d'artistes congolais, des sculpteurs, des peintres, beaucoup des danseurs, des performeurs qui vivent là-bas. Et en fait, mon enquête, elle a commencé comme ça. Moi, j'ai commencé à raconter aux gens là-bas la raison de ma venue, et tout le monde a trouvé ça assez amusant, parce qu'en fait, tout le monde avait été déjà extrêmement confronté à ces histoires-là, et notamment l'histoire précise de ces faux castings, c'est quelque chose qui était déjà connu, et même certains des artistes qui étaient là, j'ai compris qu'ils avaient peut-être eux-mêmes déjà trempé dans ce genre d'arnaque, puisqu'en fait c'est très très simple, on organise un casting au nom d'un réalisateur a priori occidental, européen, et puis le jour du casting, le réalisateur n'est pas là, mais la personne qui a organisé le casting sur Internet se présente en disant, voilà, je suis l'assistant, je suis le directeur de casting d'un tel. Malheureusement, il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais je fais une espèce de présélection et moyennant, en général, c'est 5 ou 10 dollars, je vous inscris sur la liste. Et voilà, et ensuite, le type disparaît avec l'argent. Donc, évidemment, c'est fâcheux pour les actrices qui sont prises au piège. Après, il y a peut-être des cas de figure où il y a des choses plus graves aussi. Enfin, je ne suis pas non plus un spécialiste. Mais dans le cas de mon double, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui, pour qui, en fait, cette histoire de casting, c'était vraiment quelque chose qui l'avait fait par-ci, par-là. Et que sa passion, en fait, c'était lui, c'était le rap, la musique. Et je découvre, en fait, un artiste, en fait, qui, à travers sa musique, a, en fait, une pensée politique, un rap très conscient, comme on dit. Et qui m'amène ensuite à la découverte d'un pays, voilà, au-delà, en fait, ces heures de casting devient aussi, enfin, d'usurpation devient aussi un prétexte pour aller dans des histoires peut-être plus graves, plus profondes sur ce pays, sur la situation actuelle, et effectivement les enjeux sociaux qui permettent de comprendre effectivement pourquoi ce genre d'arnaque est si fréquente, et ce genre d'arnaque, c'est vraiment pas les choses les plus graves qui peuvent se passer dans un pays où les kidnappings, les enlèvements, ça sont monnaie courante, quoi. J'ai présenté le film il y a pas longtemps, à Kinshasa, dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival du film européen. Et alors, chance extrême, il y avait deux projections qui étaient prévues par les organisateurs. Et la première était prévue, indépendamment du film, à La Vie est Belle, la résidence où le film s'était tourné. Donc ça a été absolument magique, là, de pouvoir participer à cette projection il n'y a pas longtemps, là, dans la mesure où, bah, le film était présenté là où le film s'était tourné, en présence des participants. Et ouais, ça a donné lieu à une soirée très, très belle qui s'est terminée très tard dans la nuit.
Il y a eu des bons retours sur.
Oui, alors, bah, en plus, bah, d'autant meilleur, d'autant plus bon retour que. Voilà, beaucoup de gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient dans le film, donc
Bah, c'est
enfin,
ça.
les gens étaient extrêmement heureux. Et puis de voir le film, et puis aussi, je crois, de voir que le film, bah, existait, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais arrivé là-bas, beaucoup de ces gens qui m'avaient aidé avaient dit, bon, c'était dit, à mon avis, on va aider ce type qui est là, mais sans forcément être certain que tout ça donnerait lieu à un film au bout du compte. Il y avait quelque chose un peu de l'ordre du coup de main qui m'avait été donné. Donc le fait que je revienne là avec le film, bah, voilà, c'était la meilleure façon aussi de rendre hommage à cette collaboration, à cette rencontre et à ces amitiés, enfin, que le film raconte aussi.
Voilà, c'était l'interview d'Armel Ostiou pour son film Le Vrai du Faux. Donc on passe tout de suite à la seconde interview, au second film, c'est Tropique des Édouard Salier, un film, voilà, qui raconte l'histoire de deux frères qui tous les deux participent au concours pour pouvoir devenir astronautes. Donc voilà, un concours très dur physiquement. Et un soir, alors que les deux, voilà, se baignent dans un lac, il y a voilà, ce qu'on pourrait supposer une présence extraterrestre qui atterrit et qui blesse très gravement un des deux frères, le plus compétent des deux, on va dire, qui le défigure complètement. Donc il a la moitié du visage complètement défiguré, qui perd petit à petit son humanité aussi au fur et à mesure. Voilà, c'est un film très cronenbergien, si je peux le dire comme ça. C'est une influence très assumée de son réalisateur, qui nous le dira de toute façon tout de suite, vous allez voir dans l'interview. Mais avant de commencer l'interview, voilà, j'avais envie du coup, voilà, vu qu'on parle pas mal de doubles, de frères jumeaux, de frères de doubles qui sont là, j'avais envie de vous faire écouter justement la musique d'un film de Cronenberg. On va écouter tout de suite le thème du film Faux-semblant, réalisé par David Cronenberg. On se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Vous êtes de retour dans Au fil de bobine, l'émission cinéma de Studio Zef et de Cinéphile. Voilà, on a écouté cette musique de Faux-Semblant, donc on va tout de suite enchaîner avec l'interview de Edouard Salier pour Tropique. Et tout de suite, ma question a été voilà, une question assez basique, mais il se trouve que le film n'a pas été écrit, en tout cas n'a pas été initié par Edouard Salier. Et Edouard Salier a rejoint le projet en cours de route et a apporté énormément sa patte au niveau du scénario. Et voilà, je voulais demander tout simplement comment le projet s'est mis en place, comment lui il est rentré dans le projet. Voilà.
Alors, c'est une productrice de réseau qui s'appelle Ninon Chapuis qui m'a contacté parce que je crois qu'elle avait vu des courts-métrages que j'avais fait. Elle avait ce scénario qui était une première version de Mauricio Carrasco, qui est un jeune scénariste qui sortait de la Fémis. Et ils avaient ce projet, scénario qui était assez ambitieux et assez complexe à mettre en place. Donc ils cherchaient, et puis Mauricio n'avait pas du tout envie pour le coup de réaliser, il était dans l'écriture. Et donc ils cherchaient un réalisateur qui avait un univers qui pouvait correspondre au sien. Et donc ils m'ont envoyé une version, j'ai lu. Je les ai rencontrés. Il se trouve que j'ai bien connecté avec Mauricio et avec Réseau et la production et tout. Mais on avait les mêmes références, les mêmes envies. Et une envie, lui, comme moi, de collaborer. C'est-à-dire que je ne voulais pas arriver en technicien pour réaliser un film qu'il avait écrit. C'était un échange, une collaboration. Et ça, c'était en 2020, je crois. Pas de bêtises, même 2019, la première version. Et voilà, j'ai lu, et puis on a travaillé, et puis on a cherché les financements, on a réécrit, il y a eu la pandémie, on a réécrit pour la pandémie, et puis voilà, le projet est né comme ça, quoi. Mais en fait, ce qui m'a attiré, c'était déjà c'est une proposition assez originale dans le mélange des genres. Je pense que les références de Mauricio, qui est chilien, il a toute cette référence, je pense, littéraire, au réalisme magique, qui est déjà une forme d'écriture où on mélange les genres, où il y a du social, il y a du fantastique, il y a du... Donc ça, c'est sa culture, lui, en tant que Sud-Américain, je pense. Et donc, déjà, à l'écriture, il y avait une proposition différente, alambiquée, complexe, que je trouvais super attirante et effectivement pas facile à mettre en œuvre et en image, surtout avec les moyens financiers qu'on avait. Mais oui, c'est en tout cas c'était la première proposition était déjà originale et puis après on l'a encore plus développé, travaillé ensemble et puis voilà, et puis lui il connaissait mon travail aussi donc il y a eu un espèce de match entre nos univers, quoi.
Ma question suivante a été sur un élément très important du film, c'est à savoir son maquillage et ses effets spéciaux. Un des deux acteurs a une grosse partie du film, la moitié du visage entièrement maquillé. Et ma question justement était comment rendre ça crédible à l'écran, parce que le maquillage est vraiment très réussi. Autant sur sa façon de filmer que sur le procédé de maquillage qui a été mis en place, sur comment il a été pensé. Voilà, comment on rend crédible cette défiguration?
Bah, c'était toute la difficulté déjà qu'il y avait au scénario, puisque le scénario c'était un monstre, hein, mais on ne savait pas vraiment formellement à quoi il allait ressembler. On savait qu'on n'aurait pas forcément beaucoup d'argent, donc il fallait trouver des solutions un peu malines pour faire en sorte qu'on croit à ce monstre. Donc il y a eu toute une phase de recherche pour l'imaginer, pour savoir à quoi il pouvait ressembler. Quand on a affiné un petit peu on parlait de référence tout à l'heure, mais de vision qu'on va avoir, ou quelle forme il pouvait prendre, il y avait évidemment des références à Lynch, avec Elephant Man. qui est une histoire de monstre, mais
l'aspect humain.
Ouais, voilà, où l'aspect humain est super important et l'émotion est très importante. Et c'est ce qu'on voulait avoir d'une part, mais il fallait aussi un côté monstrueux. Moi, dans mes références, je pensais à Cronenberg, Verhoeven, enfin à tout ce cinéma-là, un peu 80, qui est ma culture aussi et que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc la difficulté c'était, on n'avait pas d'argent, fallait qu'on y croie, fallait capter le spectateur dans l'émotion pour qu'il accepte de, pendant 1h50, de se prendre en grand un monstre dans les yeux, l'accepter, et qu'il ait un aspect à la fois dégoûtant et en même temps qu'il ait un panel d'émotions le plus large possible. Et puis, en fait, en réfléchissant à tous ces aspects, moi j'avais une grosse angoisse aussi, c'était côté prothèse ne fonctionne pas, puisqu'il était, on ne pouvait pas envisager de faire de 3D, ou c'était impossible, de tracking 3D et tout ça. Donc, et encore une fois, dans toutes mes références de Cronenberg, de tous ces films-là, un peu série B 80, du coup j'en ai un peu revisionné. Et ce qui fonctionnait, c'était l'aspect, je crois que l'aspect du fait en fait qu'on tournait à l'époque en pellicule, gommer énormément le côté plastique en fait des prothèses. Et c'est pour ça qu'on a aussi, dans les choix qu'on a fait, c'est des choix artistiques, mais aussi c'était un vrai challenge en production de tourner en 16 mm. Mais j'étais convaincu que c'était le seul moyen en fait qu'on puisse oublier cet aspect plastique de la prothèse, et ne serait-ce que le grain en fait rajoute de la vie dans les peaux, dans les brillances, et c'est pour ça que j'espère qu'on y croit un petit peu formellement, quoi. Après c'est Franck Limon qui a fait la prothèse, je le cite parce qu'il a fait quand même un travail incroyable. C'était quand même 6 heures de maquillage tous les matins sur Louis Pérez. Mais il y avait un côté un petit peu de fabrication à l'ancienne, quoi, qui était chouette.
Un autre gros aspect du film, je l'ai dit au début, c'est la relation entre ces deux frères. D'ailleurs, le film, finalement, part du postulat fantastique, mais pour finalement parler de cette relation de ces deux frères qui sont autant complices que rivales, et où cet accident surnaturel va un peu bouleverser tout ça, dans le bon comme dans le mauvais sens. Et donc il fallait avoir des comédiens très crédibles là-dessus, auxquels on y croit. Et donc voilà, ma question a été posée, si ça a été difficile de trouver le bon binôme.
Le casting, il a été long parce qu'il fallait trouver deux comédiens déjà capables de porter... le film, porte le film, évidemment. Au-delà de ça, il fallait trouver deux jeunes comédiens qui se ressemblent physiquement, mais qui aient aussi des aptitudes physiques assez exceptionnelles. Et en fait, parfois, j'en trouvais un, mais j'arrivais jamais à trouver son jumeau, l'équivalent en tout cas physiquement. Et donc c'est un peu un coup de chance, parce qu'à un moment j'étais même assez découragé, donc je me suis dit on va oublier le côté jumeau, on va assumer le fait qu'ils se ressembleront pas. Et en fait Louis est arrivé un peu en dernière minute de casting comme ça, parce qu'une amie m'a dit ah, faut que tu rencontres ce comédien, il est super et tout. Et je l'ai vu et j'ai dit oui, effectivement il est super. Et après du coup je suis allé repêcher Pablo, que j'avais un peu éliminé parce que je trouvais pas son alter ego, ouais, son frère. Et en fait ils sont super. Et après, et je dois dire aussi que j'ai un peu réécrit par rapport à la personnalité à eux, où Louis est quelqu'un, il est comme il est un peu dans le film. C'est quelqu'un, il a du charisme, il est solaire, il rentre dans une pièce, il prend de la place. Et Pablo est quelqu'un de plus réservé, plus lunaire. Il y en a un
Ah
qui est
oui.
plus solaire et l'autre plus
D'accord.
lunaire. Et ils sont comme ça, ils s'entendaient super bien, mais c'est deux opposés
Ah oui,
dans l'arrêt. Dans...
les acteurs avaient un peu les caractères de leur personnage,
Ouais,
quoi.
ouais, 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 ouais. Mais
D'accord.
ça, moi, j'aime bien travailler comme
Ouais.
ça, en fait. J'aime bien, une fois qu'on les a, m'adapter à leur personnalité.
Mais dans ce cas, là, on avait des jumeaux dans le script. Pourquoi ne pas avoir cherché des jumeaux? Pourquoi
On
des
a
acteurs
cherché, on a
différents?
cherché, ouais, on a cherché des jumeaux. On n'a pas, mais voilà, il fallait trouver des jumeaux en plus
C'est un
qui.
peu compliqué, peut-être.
Ouais, et puis en vrai, ils font quand même des performances physiques qui sont
Oui,
assez
ça, ouais.
fortes hein, dans le film parce qu'ils tiennent quasiment 2 minutes sous l'eau, en apnée.
C'est vraiment des performances qui ont été faites par les comédiens,
Ah
mais d'accord,
ouais,
ok.
c'est pas donné à tout le monde, ils sont
Ah ouais.
entraînés. Je savais que Louis, j'avais remarqué que Louis avait quand même un truc physique fort parce qu'il fait beaucoup de sport et tout. Et Pablo en avait fait, mais je lui ai dit, vas-y, si t'as le rôle, va falloir s'entraîner à fond. Et ils l'ont fait, et ça fonctionne, quoi.
Donc ensuite, voilà, comme je le disais, le film parle d'un entraînement pour un programme spatial. Et donc notre question naturelle, c'est si quel est s'ils ont tourné, s'ils avaient tourné dans des véritables programmes d'entraînement, dans des véritables lieux d'entraînement, et après évidemment si ils avaient eu des consultants de la part de l'Agence spatiale européenne, par exemple, pour que le film ait une certaine crédibilité dans ce qu'il raconte.
L'Agence spatiale européenne a été assez coopérative et nous ont ouvert. Alors, on n'est pas allé dans des centres de sélection, enfin, c'est pas vrai, c'est pas vraiment des centres de sélection, mais des centres d'entraînement. Mais on est allé, ils nous ont ouvert leurs portes à Toulouse, où ils sont installés. Moi, j'ai eu plusieurs entretiens, rendez-vous avec eux. Ils ont été super, vraiment bienveillants. Ils nous ont ouvert les portes à Kourou aussi, en Guyane. Donc, par contre, enfin, je ne vais pas dévoiler, mais il y a une partie quand même qu'on a tournée dans leur centre spatial. Mais voilà, ils ont, en tout cas, ils ont été assez disponibles sur les questionnements qu'on avait. Après,
Oui,
moi,
j'imagine.
c'est un peu une dystopie, on est un peu dans un univers fantasmé aussi, donc moi, j'ai fait ce qui m'arrangeait aussi avec les moyens du bord.
Oui.
C'est-à-dire que j'aurais bien mis des machines un peu plus impressionnantes sur les essais, choses comme ça, mais on n'avait pas les moyens
Oui, d'avoir cette.
de faire Starship Trooper, quoi. Donc,
Édouard Salier est un réalisateur qui a beaucoup pas mal travaillé dans le clip, énormément. Alors, avant que je lui demande comment son travail justement dans le clip l'a influencé son travail sur un long métrage comme Tropic, nous allons écouter tout simplement une des chansons pour laquelle il a fait le clip. La chanson s'appelle Splitting the Atom et c'est chanté par Massive Attack. On écoute tout de suite.
The evening. drops. The summer's gone before you know. The muffled drums of relentless flow. You're looking at stars that give you vertigo. The sun's a burning and dust will blow. Hard scars, I'll keep you near. Our blood is gold, nothing to fear. We killed the time and I love you dear. A kiss so warm will disappear. The last of the last particles. Divisible, invisible. The last of the last particles. Divisible, invisible.
C'était à nouveau de retour sur Au fil des bobines sur Studio ZEF. Voilà, on vient d'écouter une chanson de Massive Attack dont Edouard Salier a réalisé le clip. Et justement, ma question était sur est-ce que son travail sur le clip, un travail où on doit travailler vite ou le travail doit être extrêmement visuel, l'a influencé sur sa réalisation de Tropic. Et puis d'ailleurs, en règle générale, il nous dit comment il a géré son travail, le travail de la musique et des images sur son film.
Oui, j'imagine que oui. Après, moi, enfin, je rebondis sur l'aspect musical parce que pour moi, la musique est très importante dans ma vie, déjà, et dans le cinéma. J'aime la musique au cinéma. J'écoute essentiellement des bandes originales. Enfin, j'adore parler de Sergio Leone. Ouais. Ouais, voilà, donc. Donc moi j'adore, donc il y a une part assez importante et je pense quand même toujours mes images avec de la musique. Et là notamment sur Tropic, c'est Sébastien qui a fait la musique, avec qui j'ai jamais travaillé, mais on avait des connaissances en commun. Mais oui, il y a forcément évidemment qu'il y a une influence de mon passif dans le monde de la musique et du clip et... quand je fais mes images.
Tu disais justement que la musique elle a une place importante pour toi, ça se ressent énormément dans le film, parce que déjà dans le film, on a vraiment ces sons assez électroniques qui donnent cette ambiance unique au film.
Ouais.
On a l'impression d'être... Ça se passe sur Terre, à notre époque, ou dans notre monde, mais il y a quand même un petit côté, on est ailleurs. Ouais. Ça donne son style, son ambiance.
Oui, et puis après... si on peut parler de référence, parler de référence de cinéma et tout, mais moi j'ai été aussi. J'aime beaucoup la culture manga, j'aime beaucoup les animés manga, et dans la musique, je voulais qu'il y ait un côté un peu épique d'ouverture de générique de dessin animé.
D'accord.
Voilà. Ouais. Je sais pas si Capitaine Flamme, ça vous dit quelque chose, Albator, Goldorak, enfin tous ces
moi,
vieux.
Génération.
Voilà, mais moi c'est ma génération.
C'est jamais tout. Vu, mais je connais.
Mais c'est des super classiques, quoi. Et donc, il y avait, dès que le générique se mettait en place, il y avait ce côté un peu électronique, épique. Et ça faisait aussi partie des choses que j'avais en tête. D'ailleurs, il y a une petite référence. Quand ils sont dans la cuisine, il y a un dessin animé en fond, c'est Cobra. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Cobra. Voilà, donc c'est ça fait aussi partie de ma culture.
Alors, le film est un postulat de science-fiction fantastique, mais finalement parle d'une histoire qui est très terre-à-terre entre deux frères. Mais malgré justement ce récit de terre-à-terre, Edouard Sedley continue dans son visuel à nous donner une impression d'ailleurs. Il date jamais vraiment le film, il ne situe jamais vraiment le film dans l'espace. Et ça, c'était une vraie volonté de sa part, et il nous l'explique.
Moi, j'aime le cinéma où je voyage. Donc j'aime le cinéma qui me fait découvrir des univers, des imaginaires j'aime le cinéma réaliste et tout, mais le vrai cinéma, enfin le cinéma pour lequel j'ai encore plus de fascination, c'est un cinéma qui impose des univers riches en qui sortent de l'imaginaire, mais ça doit venir de mon passé, j'ai fait beaucoup d'illustrations, j'ai fait de l'animation. Donc on crée des univers, on les construit sur une page blanche, et c'est ce que j'aime bien. Donc j'avais envie d'avoir cet univers un peu singulier pour y implanter mes personnages, dont ce monstre. Sans pour autant qu'il prenne, comme tu dis, le pas sur la narration, il est toujours en toile de fond. Mais ça me permettait de raconter, je crois, le fait que ça soit pas un univers aussi complètement réaliste, je me suis raconté que ça me permettait d'accepter en fait le monstre de façon plus.
Naturelle.
Plus naturelle, plus facile, quoi. Voilà, puisqu'on accepte qu'on n'est pas. On est dans un monde parallèle. Et d'ailleurs, j'ai pas donné de date, en fait, j'ai fait exprès. C'est presque un monde parallèle au nôtre, quoi.
Et on a posé la question à Edouard Sedley, quel était son rapport à l'espace, en fait, parce que pourquoi avoir choisi de parler d'un programme spatial et pourquoi, en fait, la conquête spatiale est un thème qui le fascine. Il nous le dit.
Quoi. Mais la conquête spatiale est présente aussi, parce que je crois que c'est un vrai sujet d'aujourd'hui. Je trouve que d'ailleurs qu'on n'en parle pas énormément, mais c'est quand même quand on voit Elon Musk, Jeff Bezos qui se tirent la bourre comme des malades pour partir dans l'espace, moi je trouve ça complètement fou et fascinant et flippant, en fait, parce que... pour avoir discuté du coup avec les gens qui font vraiment décoller les fusées, quand on leur demande mais pourquoi, c'est quoi cette course à l'espace, le sujet, c'est que notre Terre elle est finie, quoi, enfin elle est morte, donc il faut partir. Donc, on cherche des solutions pour partir. Non, c'est un sujet d'actualité en fait je suis assez étonné, même, parce que ça, dans les gens qui ont vu le film, alors évidemment que c'est l'histoire de deux frères et tout, mais le sujet un peu, l'aspect social, pour moi, il vient aussi, l'aspect contemporain du film, il vient de cette arène qui est cette course aux étoiles, c'est une course pour... aujourd'hui, on... Et ça, c'est les gens d'aérospatiale qui le disent. Aujourd'hui, on met trois astronautes dans un vaisseau, mais l'idée, c'est dans 50 ans, pouvoir en mettre 200, 300, pour qu'il y ait des départs à grande échelle, quoi. Mais ça, c'est pas de la science-fiction. Ils travaillent vraiment là-dessus. Donc c'est un sujet, moi, qui... Enfin, c'est fou, c'est fou, en fait, quoi. C'est un vrai sujet.
Voilà, c'était l'interview d'Edouard Sedley pour le film Tropique. Moi, je rappelle un petit peu pour le vrai du faux, le film est encore en séance à Cinéphile pour une dernière séance encore, donc ne la loupez pas. Ce sera le dimanche 17 septembre à 20h30 et Tropique est encore présent pour 5 séances. Voilà, donc il sera disponible jusqu'au 23 septembre. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très vite pour une nouvelle émission et plein de nouveaux films à aborder. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très bons films. Au revoir.